Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, émission spéciale. Nous nous retrouvons avec une voix bien connue de Parlez-moi d'IA pour tenter de décrypter comment on fait désormais du développement informatique ou numérique avec l'IA et quelles sont les conséquences pour les développeuses et les développeurs. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos vies.
Cause Commune, 93.1 FM.
Et vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune-au-singulier.fm et nos apps mobiles Android et iPhone, sur la bande FM, 93.1, ou le DAB+, en podcast également, sur votre plateforme préférée. Merci Monsieur Gricot, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté, de nous fournir autant d'outils magnifiques. Aidez-nous en partageant cette émission sur les réseaux sociaux et autour de vous, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, c'est notre seule récompense et ça nous fait connaître car ça manipule les algorithmes et...
C'est cool de manipuler un algorithme.
Bon, cela faisait un petit moment que je souhaitais aborder ce sujet des nouvelles modalités de développement informatique et numérique, mais j'avais pas trouvé le bon angle et la bonne invitée. En partageant mon interrogation avec mon invité du jour, justement, elle m'a gentiment rappelé qu'elle était développeuse, senior, depuis un petit moment, et que désormais, elle travaillait effectivement quotidiennement avec de l'IA. Bon, si vous êtes fidèle de notre émission de longue date, cette invitée, bah, vous la connaissez bien, puisqu'il s'agit de tout simplement Alexia Toulmé, qui est toujours co-animatrice de Parlez-moi d'IA, avec Serge Habitboul et moi. Bonjour Alexia.
Bonjour Jean-Philippe.
Et bienvenue dans le studio que tu connais de Cause Commune. Pour une fois, je vais aussi faire une émission en te tutoyant, on se connaît bien. Les auditoristes le savent, on va pas se mentir. Donc on va passer en mode tutoiement. Et puis on va être un peu dans un format un peu inhabituel, on va être un peu dans un échange. Moi j'aimerais bien que tu me parles un peu de comment tu fais pour justement développer aujourd'hui, c'est ton métier, et comment tu le fais avec l'IA. Tu le fais tous les jours et tu vas nous partager ton expérience. L'idée, c'est qu'on s'adresse au commun des fonctionnels, au commun des mortels qui, effectivement, alors, on voit tous à peu près comment ça fonctionne. Moi, je fais des petites choses. Donc, on voit bien comment on peut interroger une IA pour se faire aider techniquement. Mais là, tu es au quotidien sur des applications qui sont en ligne et qui ont un client derrière et qu'il faut que ça fonctionne. Alors, peut-être qu'on peut commencer déjà par rappeler, même si on le connaît un peu, si on revient dans des émissions antérieures sur ton parcours, mais voilà, ton parcours pro et académique qui te mène aujourd'hui à être développeuse senior. Ça commence où?
Alors, j'ai découvert la tech il y a 13 ans maintenant. J'étais à l'époque étudiante en affaires publiques, donc à Sciences Po, et ça avait rien à voir avec la tech, ce que je faisais. Et progressivement, j'ai décidé de m'orienter là-dedans.
Ouais.
À la fin de mon diplôme d'affaires publiques, j'ai pris directement le chemin de 42, donc l'école 42, où j'ai appris à coder.
Et à l'époque, donc, quand tu faisais quoi comme type de développement?
Dès que j'ai pu, je me suis spécialisée en web, et plus particulièrement en web front-end, parce que moi j'aime bien tout ce qui est visuel. À côté de mes études, à côté de ce que je fais dans mon travail, j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre.
Alors redis-nous un peu ce que c'est que le front-end.
Ouais. Le front-end, donc, c'est en opposition au back-end,
ouais.
Et c'est tout ce qu'on voit. Donc, c'est tout ce qui est affiché dans le navigateur.
Quand tu arrives sur un site ou une application.
Sur un site ou une application. Okay. À l'inverse, le back-end, c'est là où il y a les serveurs, les bases de données et ce qu'on ne voit pas.
Et donc, c'est ta spécialité, mais tu faisais aussi un peu de back-end à l'époque aussi quand même?
Oui, je pense que c'est important aussi quand on apprend de toucher un peu aux deux. Et d'ailleurs, dans mes premières expériences, je touchais aux deux. Et j'étais donc ce qu'on appelle full stack.
C'est ça. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment effectivement ça évolue ça avec l'IA. Typiquement, tu dirais quoi des compétences fondamentales d'une développeuse senior sans IA qui sont vraiment très importantes quand même avec l'IA. Des choses qui vont finalement rester dans les deux mondes.
Être capable d'architecturer un projet, pour moi, c'est la compétence essentielle. Donc savoir que il y a des responsabilités de l'application qui sont rangées à un certain endroit, que certaines parties du code ont cette responsabilité-là et que d'autres parties du code ont une autre responsabilité, qu'on se mélange pas, qu'on met pas tout un peu n'importe où. Et donc ça, c'était déjà important avant.
Ça, tu l'as appris à 42, ça ?
Je l'ai appris au fil de mes expériences.
Ouais. Ça, c'est une première compétence fondamentale. Il y en aurait d'autres pour toi ?
Tester.
Ouais.
Toujours, que ce soit du test manuel.
Pas oublier de tester au milieu de ce qu'on fait, ouais.
Exactement. Et donc, que ce soit du test manuel ou du test automatisé, c'est hyper important, en fait, de savoir ce qui part pour les clients, enfin, pour les utilisateurs. C'était déjà le cas avant, mais ça l'est encore plus aujourd'hui avec l'IA.
Et ça, quand tu testes ou quand tu organises, finalement, c'est aussi une manière de vérifier ce que fait l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est finalement aussi l'IA qui le fait dans ton développement, le fait d'organiser le projet, le fait de tester, et le fait de l'avoir sans, tu peux mieux vérifier finalement comment elle se débrouille, l'IA.
Ce qui est assez amusant, c'est que du coup, j'utilise aussi l'IA pour tester.
Ouais.
Donc, pour organiser, elle va avoir tendance à le faire par elle-même, mais souvent...
Tu la guides.
Il faut la cadrer.
Ouais.
Parce que elle va commencer à créer des choses en plus, à improviser certaines choses, à créer un fichier là où c'était pas du tout nécessaire.
Et dans ces cas, c'est toi qui lui dis non, pas comme ça.
Oui.
Et ça, au fur et à mesure de tes projets avec l'IA, tu lui mets un peu le cadre, ce qu'on appelle de plus en plus le harnais, là où dès le départ, on lui entend « moi je veux ça comme ça, je veux que ça soit organisé comme ça », et c'est elle finalement, enfin c'est toi qui la guide dès les premiers pas pour l'organisation.
Oui, en fait, tu viens configurer tes préférences c'est et ça. De dire « ce projet est architecturé de telle manière, et donc quand tu crées tel type de fonctionnalité, eh bien, il faut t'assurer que tu respectes ce qui est déjà existant ». Et au fur et à mesure, c'est à toi de, c'est une espèce d'hygiène ouais. de t'assurer que c'est dedans et de documenter, continuer à documenter ça.
Avant aussi, tu devais, quand tu étais développeuse, tu devais, sans IA, tu devais finalement faire ta propre veille technique sur les évolutions, sur la manière dont on pouvait utiliser telle ou telle techno, telle ou telle nouvelle librairie. Ça, tu continues à le faire avec l'IA ou c'est finalement plus l'IA qui, parce qu'elle a cette capacité à aller chercher plein de choses possibles, à la fois dans les forums, à la fois dans les... Comment tu joues cet aspect veille avec l'IA ?
Alors, je maintiens quand même une forme de veille. J'ai toujours des newsletters, des choses comme ça. Ce qui a différé pour moi, mais c'est très personnel, c'est que je me suis retirée des réseaux sociaux. Donc, il y a encore un peu de LinkedIn, mais à l'époque, je regardais pas mal Twitter. Et donc ça, maintenant, je m'appuie que sur des newsletters.
Ouais. Donc, faut avoir les bonnes personnes en veille.
Ouais. Ce que moi, je fais, c'est que je regarde les grands sujets et c'est l'IA qui va creuser pour moi. Là où avant, j'aurais peut-être eu besoin de creuser dès le début quand je fais ma veille.
Donc pour la découverte, c'est tes newsletters et quand tu veux aller plus loin, tu l'envoies quoi ?
Je l'envoie ou juste je vais dialoguer avec elle ouais. en disant « Ah oui, j'ai vu cette librairie, j'ai vu cette manière de faire, est-ce que tu peux m'en dire plus ?»
Donc t'es développeuse, mais on l'avait déjà dit dans les émissions précédentes où tu avais parlé de ton parcours, tu es aussi prof et prof de code. Et prof de code à Sciences Po, dans une option qui est un peu partagée entre tous les masters du centre de l'entrepreneuriat qui est à Sciences Po. Et donc, c'est des étudiants qui viennent un peu de tous les masters et qui viennent faire cette option-là, qui s'appelle, j'aime beaucoup le nom, parce qu'il est un peu désuet, mais en oui. même temps, on voit bien ce que ça veut dire, code informatique, développer un site web. Tu leur apprends la base, quoi.
C'est ça.
Et qu'est-ce que tu continues à leur apprendre, du coup ?
Alors, ça évolue chaque semestre. Donc, il y a le découpage en semestre.
Ouais.
Et au fur et à mesure, donc j'ai ajouté un petit peu de no-code il y a quelques années.
Je le redis à no-code.
No-code, c'est des outils qui permettent de créer des interfaces et des solutions sans avoir à écrire du code du tout.
À trop coder. N8N, Make.
Là, c'est même Webflow.
Webflow, ok.
Ouais, Webflow, t'as des choses comme
Bubble. C'est des outils, en fait, où tu es un peu guidé dans la manière de développer et tu ne fais pas ton propre ligne de code pour tout faire.
Exactement. Et là, depuis un an et demi, là, on a vraiment ajouté dans le cursus le fait d'utiliser l'IA pour coder. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est que quand on apprend les bases ensemble de l'algorithme, de HTML, CSS... Il faut qu'ils fassent par eux-mêmes pour comprendre ce qu'ils font. Mais après, on consacre 2 séances à vraiment utiliser l'IA pour faire un simple site vitrine et le déployer, et même faire un site un peu plus poussé, une solution un peu plus poussée, et voir jusqu'où on peut aller et quelle démarche, en tant que développeuse, moi, j'ai pour découper le travail et faire en sorte que ce soit le plus abouti possible.
Là, t'as combien de séances avec eux ?
12.
Et qui leur parle d'IA ?
2.
D'accord. Donc, il y a quand même 10 séances où ils apprennent à mettre les mains dedans sans l'IA, quoi.
Oui.
D'accord. Alors, venons, voilà, sur ta propre expérience. T'es développeuse, déjà développeuse senior à l'époque, et l'IA déboule dans ton métier. C'est quoi la première expérience de l'IA dans ton métier de développeuse ?
C'était GitHub Copilot avec des autocomplete qui parfois étaient surprenants et parfois c'était vraiment pas terrible.
Donc GitHub, c'est là où on met son code et qu'on l'expose et qu'éventuellement on peut le pousser après vers des serveurs et c'est généralement là qu'on stocke son travail. Petite autocomplétion, donc en fait ça continuait la ligne de code que t'étais en train de d'écrire, ça te proposait des choses.
Ouais.
Et tu dis qu'à l'époque c'était pas toujours
Pas fameux.
Exceptionnel.
Au début c'était vraiment pas fameux.
Et c'est à quel moment où ça devient un peu plus waouh ?
J'ai installé Cursor et je me suis dit waouh, il me propose des choses qui, déjà, il va beaucoup plus vite que moi, et c'est pertinent.
Cursor, si tu peux nous expliquer ce que c'est exactement.
Ouais, Cursor, c'est donc un logiciel qui est un éditeur de code. Donc, en soi, c'est un logiciel qui permet d'écrire du texte, mais du texte qui est du code, avec des fichiers de code. Mmh. Et il est boosté à l'IA, où il se plug à Claude, ChatGPT, etc. Et donc, il va faire tourner les modèles sur tous les fichiers de code qui sont dans un répertoire de code. Et à partir de là, il va proposer des solutions.
Ça, c'était vraiment une révolution. Donc, c'est un IDE. Donc, c'est un logiciel qui permet de faire du développement. C'est bien ça, hein ?
Oui, en fait, éditeur de code, IDE, c'est la même chose.
D'accord. Et il n'y a pas que Cursor. Il y en avait déjà d'autres à l'époque. Donc, la meilleure qualité, quand même.
Là, clairement, meilleure qualité.
Et là, dans ce cas-là, quelle réaction ? Méfiance ? Curiosité.
Moi, à ce moment-là, j'étais à fond dans l'IA. Je me suis dit, ah non, mais c'est génial ce qui est en train de se passer. Je sens que je suis encore nécessaire, mais je peux aller plus loin.
Et il ne viendrait pas à l'idée d'une entreprise qui a besoin de développeurs de leur dire, bon, bah, vous utilisez zéro IA pour développer le produit. Ils vont peut-être leur demander des manières de faire un peu spécifiques. Peut-être sécuritaire, peut-être, mais bon, ils vont. Il n'y a plus aucune boîte qui dit à ces développeurs, surtout vous n'y touchez pas.
Moi, je ne le vois pas, mais c'est plutôt l'inverse. C'est du coup l'entreprise et la direction qui va dire allez-y parce que ça permet de faire plein de choses.
Et alors, du coup, aujourd'hui, donc, tu avais une stack. Alors, une stack, c'est tes outils et tes méthodes.
Mon langage aussi.
Ton langage aussi. Tu avais une stack en particulier avant.
Oui, c'est toujours la même. Donc, moi, je suis beaucoup sur JavaScript et en front-end, c'est React.
Et ça n'a pas changé entre les deux ?
Non. Et d'en plus que les outils d'IA sont excellents sur React. Et par défaut, quand on code des interfaces, souvent, ils
parlent là-dessus.
Ils parlent là-dessus. Donc, ouais.
Et alors, si tu devais un peu nous décrire une journée type, c'est quoi le quotidien d'un développeur ? Et du coup, booster à l'IA ou dans le, avec un usage IA au milieu.
Déjà, tu peux. Donc, tu prends en main des spécifications qui sont faites par le designer, le product manager, etc.
Donc, ça, c'est des gens qui viennent te poser des demandes sur ton bureau.
Ouais, qui t'envoient un message en disant voilà la prochaine fonctionnalité sur laquelle on va travailler. Et à partir de là, moi, je vais découper en tâches techniques. Donc, je vais analyser comment je peux créer ça concrètement, quelles sont les complexités, etc. Souvent, il y a des allers-retours, d'ailleurs, pour s'assurer qu'on le fait au plus efficace possible.
Et que tu as bien compris la demande.
Ouais. Et que j'ai bien compris la demande, parce que des fois, et aussi, il y a des zones un peu floues. Donc, on explicite un peu toutes les attentes. Et là, je vais créer mes tâches techniques. Et donc, là, je peux parfois utiliser l'IA pour m'inspirer, m'aider à cerner tous les tenants et aboutissants d'une tâche technique. Même parfois, alors ça je le fais un peu moins, mais selon la tâche que je fais, je peux même demander, donc moi j'utilise Claude actuellement, j'écris dans mon interface Claude, créez-moi la tâche sur l'outil de project management que j'utilise qui s'appelle Linear. Et Claude me fait mes tâches avec tous les bons labels, etc. Et derrière, je vais coder.
Et... On considère que ce que tu dis là, la création des tâches et tout ça, c'est finalement un labeur un peu sans valeur, enfin avec peu de valeur, et du coup c'est facile et c'est plutôt pas mal de le filer en rapidité, en célérité à l'IA.
Justement, ça dépend. Si il y a peu de valeur, oui, il faut le filer à l'IA. Ouais. S'il y a de la valeur et beaucoup d'échanges nécessaires, non, je fais tout à la main.
C'est ça. Donc tu gardes la main quand même à des moments où tu dis non, ça je vais pas lui confier ça, c'est trop compliqué, oui. Pardon. Du coup, tu vas lui dire je veux le faire comme ça, ou même tu le fais et tu lui demandes rien.
Voilà. Typiquement, pour donner un exemple concret, là aujourd'hui, dans ma journée de dev, j'ai complètement tout fait à la main parce qu'il y avait des logiques produits très fortes ou avec des besoins d'aller challenger le designer. Et donc là, j'ai tout fait à la main. À l'inverse, il y a quelques mois, je faisais tout avec l'IA parce que je posais des bases de composants, donc visuels. Et là, c'est des choses qui sont assez classiques. Moi, je relisais, mais je faisais les spécifications avec l'IA.
D'accord. Donc ça, c'est la base de la création de la tâche. Ouais. Et tu disais, après, tu développes du coup la tâche. Et là, dans ce cas-là, comment tu t'interagis avec l'IA?
Donc, je vais récupérer les spécifications. Je peux, par exemple, dire... Donc là, j'utilise, moi, actuellement, Claude.
Ouais. Oui, c'est ça qu'on n'a pas dit.
Ouais.
Ce que tu utilisais aujourd'hui. Tu as parlé de Cursor, mais aujourd'hui, c'est plutôt Claude.
Surtout que Cursor a été racheté par SpaceX. Et du coup, j'ai...
C'est vrai.
J'ai moins envie d'utiliser Cursor. Mais j'utilise Claude Code. Mmh. Et donc, j'ai une app sur mon desktop. Désolé pour les anglicismes.
Oui, sur ton ordinateur.
Sur mon ordinateur. Et donc, je vais ouvrir une nouvelle session à chaque fois que j'ai une nouvelle tâche. Parce que pour pas qu'il s'embrouille dans le contexte, j'ouvre une nouvelle session. Je lui dis, je veux faire ça. Souvent, je lui demande si ça lui évoque quelque chose. Moi, je vais soit moi-même le guider vers les fichiers pour éviter qu'il perde trop de temps, qui seront concernés par les modifications. Soit je vais lui dire, est-ce que tu vois où sont les fichiers qu'il va falloir que tu touches? Donc, je commence à cadrer un peu les choses avec
donc,
lui.
Donc, de base, tu le connectes à l'endroit où sont les fichiers. Et ça, c'est la configuration de départ. Et tu le guides un peu pour qu'il aille chercher les bons.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est que quand on dit connecter, juste je lui dis le nom du fichier.
Et il va chercher dans tes trucs, dans tous tes répertoires, dans tous tes projets, dans tout, et il sait où est-ce qu'il doit aller.
Ouais.
C'est fou.
Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en plus, actuellement, là, depuis quelques semaines, je n'écris plus, je dicte.
Ah oui.
Tout le temps. Donc, je parle à Claude en lui disant alors, j'ai envie de faire ça, donc je pense que tu peux aller regarder là. Et après, je fais des pauses quand je parle parce qu'il faut que je réfléchisse. Mais ça, je pense que si c'est vu de l'extérieur, là, je travaille beaucoup seul chez moi, donc ça va. Mais vu de l'extérieur, ça doit paraître un petit peu...
Tu peux pas faire ça sur un plateau en open space. C'est pas possible.
J'en connais qui le font.
Ah oui, quand même.
Et ils ont le micro...
Ils parlent à voix basse, ils font du ASMR de dictée, c'est ça.
L'ASMR dev. Et donc, à Station F, apparemment, ils sont plusieurs à avoir leur petit micro. Et moi, c'est des développeurs de Station F qui m'ont...
On dit aussi que tu es sur Mac, que ce logiciel que tu utilises, il s'appelle
VoiceInk.
Oui, et qui marche très bien pour ça, justement, pour guider et pour prompter. Enfin, tu promptes à la voix.
Exactement.
La demande que tu as avec l'IA. Bon, allez, des petites questions un peu de principe. Est-ce que ça permet de documenter un peu plus ton code d'utiliser l'IA?
Oui, parce que souvent, la documentation, c'était les choses qu'on prenait pas trop de temps à faire. Donc oui, ça permet de documenter plus, mais en restant vigilante, parce que Claude, parfois, peut être très verbeux et il rajoute des commentaires partout. Et
il raconte sa vie.
Et quand, en fait, à chaque fois qu'on lui fait un retour en disant non, ça va pas, il rajoute un commentaire en disant oui, j'ai bien intégré le fait que ça n'allait pas. Et donc, si tu pushes ça pour tout le monde, les gens.
Tout le monde voit tes discussions avec lui, quoi.
Oui, ça a aucun intérêt à ce que ce soit partagé avec tout le monde.
Et pour tes tests, alors, est-ce que ça te sert à quelque chose, l'IA?
Oui, parce que les tests, c'était souvent les tâches un peu chiantes à faire. Alors, ça a de la valeur, mais c'était un peu chiant. Surtout
les cahiers de tests et tout ça.
Moi, dans les contextes où je dev, souvent, du coup, ça passait à la trappe sur des plus jeunes startups, par exemple, qui disaient « Ah bah non, il n'y a pas le temps, les fais pas ». Et c'est hyper dommage, en fait.
Bah oui.
Donc oui, ça a de la valeur, l'IA.
Et donc, les tests, c'est de quelle nature ?
C'est des tests automatisés, donc soit ce qui s'appelle des tests end-to-end, plus coûteux à faire tourner, donc on n'en fait pas trop, soit des tests d'intégration où tu t'assures que les blocs fonctionnent bien entre eux et affichent bien les bonnes choses.
On a parlé beaucoup de Mythos dernièrement, et de fables. Est-ce que tu fais des tests cyber, de cybersécurité pour vérifier que ce que tu as développé, il n'y a pas des petites failles dedans?
Ben justement, moi en front-end, je suis un peu moins concernée par les failles de cybersécurité. Donc c'est plus moi qui vais m'assurer qu'il n'y ait pas des folies qui sont faites par Claude, mais bon, normalement ça devrait aller, mais ce serait un bon rituel à intégrer.
Tu relis du coup le code de Claude?
Ah, toujours, c'est hyper important.
Je ne le laisse pas faire tout seul, à chaque fois tu relis, tu vérifies, et tu vas changer des choses qu'il aurait pu faire?
Oui, de plus en plus.
Et ça, il le prend en compte? C'est-à-dire que, est-ce qu'il voit ta modification de son travail?
Oui, alors avant, la manière dont je travaillais, c'était un peu difficile quand tu faisais des modifications comme ça manuellement. Là, j'ai fait en sorte que à chaque fois, j'ai une session, il sait où je suis dans le code, les modifs que j'ai faites. En revanche, il me dit pas « Ah bon, il a pas d'ego mal placé ?»
Comment ça? Tu me corriges? on parlait de Mythos. On a parlé en préparant cette émission de Fable 5 aussi, qui était un peu la version édulcorée de Mythos. Tu as eu le temps de la tester pendant 2 jours.
C'est ça.
Et tu m'as dit en préparant cette émission, c'était absolument dingue. Qu'est-ce qui était dingue en fait dans ces modèles d'IA?
Ce que moi j'avais trouvé dingue, c'est que c'était hyper pertinent. Sur les tâches, ça bossait en autonomie totale.
Ouais.
Et
le résultat était très bon.
Le résultat était très bon. Et puis en fait, je lui demandais une modif et il allait par lui-même lancer le navigateur pour regarder le résultat et pour me dire ah oui, c'est bon. Moi, aujourd'hui, j'ai intégré donc ce qui s'appelle Claude Design. On a fait en sorte que le designer de l'équipe passe plus de temps à faire de l'UX et du product management, donc à gérer avec les teams business comment améliorer le produit.
Et l'ergonomie du produit.
Et l'ergonomie. Enfin, en gros, lui, il va réfléchir à vraiment l'expérience utilisateur et tout ce qui va être design d'interface avec les bonnes couleurs, les bons boutons, etc. Là, en fait, je l'ai connecté à la base de code existante. Je lui ai dit, voilà, des screenshots de l'UX sans aucun design. Et il m'a sorti des maquettes. Et donc, le designer a économisé 2 jours de travail.
Donc ça, c'est Claude Design.
Claude Design.
Il faut un abonnement en plus ou pas?
C'est intégré. Alors, moi, j'ai l'abonnement Claude Max.
Ouais.
C'est intégré avec Claude Max.
D'accord.
Mais c'est un nouvel outil équivalent à Claude Code.
Tout ça, là un junior, comment il se débrouille avec ça? C'est-à-dire que toi, tu as la chance quand même d'avoir développé ça, donc d'avoir un peu des assises fortes, des piliers dans la manière de faire. D'ailleurs, tu disais en préparant cette émission que quand c'est coupé pendant 2-3 minutes, tu te dis « Putain, comment je dois refaire ça sans l'IA ?» Et tu dois reprendre un peu de temps, mais tu peux le faire, parce que tu sais le faire.
Alors, un peu de temps, ça dépend des tâches. Il y a des tâches où ça me prendrait plusieurs jours, voire plusieurs semaines à faire sans IA.
Et un junior, comment il fait du coup pour se former tout en utilisant les outils de l'IA, tout en ne perdant pas quand même le gain du parcours?
En fait, je suis partagée là-dessus parce qu'il y a une partie de moi qui se dit qu'il faut, c'est essentiel de voir les bases, comme moi j'ai pu le faire à 42 pour comprendre le fonctionnement de l'ordinateur.
On se rappelle que 42 avait refusé au départ l'IA dans le cursus.
Je suis partagée sur le fait que oui, il faut des bases, mais il y a une partie de moi aussi qui se dit que un développeur junior aujourd'hui aura peut-être des choses aussi moi à m'apprendre sur la manière d'utiliser l'IA, parce que j'ai mes réflexes à l'ancienne, là où
il n'y a pas de blocage quoi. Il a moins de blocage que toi peut-être.
Lui, il est natif sur l'IA, donc je me dis que il faut pas que je sois trop fermée sur ça, mais donc il faut trouver l'équilibre. Et en fait, personne n'a la bonne réponse.
Et est-ce que tu es transparent avec tes clients et tes patrons sur ton usage de l'IA?
Oui, c'est super important, je trouve. Même là, tu vois, quand je disais que j'ai fait des maquettes avec Claude Design, et c'était aussi la volonté du designer, on l'a publié sur un channel public et ils savent qu'on utilise l'IA.
Et inversement, du coup, ils t'en demandent pas plus parce qu'ils savent que t'as l'outil IA, ils changent souvent, ils veulent tester ça, et Alexia, il faut refaire ça, et tu peux le faire parce que t'as l'IA. Il n'y a pas cette tendance aussi un peu à appuyer sur le champignon?
Si, typiquement, il y a tendance à demander plus, à faire plus. Et je pense que c'est une problématique un peu plus globale où moi, actuellement, je facture pas plus alors que je suis beaucoup plus efficace. Et les gains de productivité, en fait, ils sont complètement pour son client. et enfin pour le client et moi pas spécialement. Là même, j'ai des missions où je travaille moins de jours par semaine. Moi, c'est mon confort et ça me suffit. Enfin, ça me va très bien. Mais si avec les 3 jours par semaine que je fais, ça aurait pris plusieurs semaines sur certaines tâches et le client paye moins. Et, mais moi, je suis confortable parce que je travaille moins. Mais pour l'instant, de toute façon, de manière plus globale, il va falloir se poser des questions, je pense.
Sur le partage de la valeur, c'est sûr.
Exactement, le partage de la valeur.
Ah oui, c'est évident. Allez, qu'est-ce qu'on, pour conclure, ce serait quoi pour toi le guide de survie du développeur front-end, justement, dans ce nouveau contexte? Comment il faut envisager son métier? Qu'est-ce qu'il faut, quel état d'esprit il faut avoir?
Il va falloir faire preuve d'adaptation parce que c'est bien d'avoir, comme je disais, des bases solides. Je pense que c'est plus simple, mais en fait, on ne sait pas du tout. Même quelqu'un qui a 30 ans d'expérience et qui a vu pas mal d'évolutions ne sait pas, il ou elle ne sait pas à quoi le métier ressemblera, même, je pense, dans 2 ou 3 ans.
Tu vas être remplacé par l'IA, tu penses?
Peut-être.
Non, mais.
Mais en fait, peut-être. Mais peut-être que j'apporterai autre chose et donc peut-être que je serai plus développeuse, mais je serai produit. Enfin, parce que là, c'est ce que j'expliquais. Donc, je dirige l'IA pour faire des maquettes aussi. Donc, ce serait peut-être un poste un peu hybride. Et ça va dépendre aussi des contextes. Moi, là, je te parle d'une entreprise où on est 2 devs, un CTO et un designer. C'est le contexte actuel que j'ai. C'est pas du tout la même chose quand il y a 50 devs, 500 devs. Donc, pour l'instant, il y a énormément de choses qui évoluent et il va falloir être vigilant, donc être capable de s'adapter en fonction de comment les choses se passent.
On n'a pas trop parlé de la partie environnementale, de l'usage de l'IA et notamment dans le code. Moi, j'ai quand même l'impression, alors c'est pas tout à fait ta pratique à toi, mais qu'il y a certains développeurs qui doivent interagir avec des modèles et qui vont choisir les plus gros, les plus puissants, les plus, quoi qu'il arrive, même s'ils ont un tout petit truc à lui demander et qui vont pas être, et qui encore aujourd'hui ont des réflexes de surconsommation de l'IA. Comment tu vois les choses de ce point de vue-là?
Alors, je suis pas irréprochable là-dessus parce que je pense qu'il y a des fois où j'utilise l'IA et ce serait pas indispensable. Mais parce que je trouve que c'est difficile aujourd'hui de se limiter parce qu'on est dans cette phase, en fait, d'exploration. Et donc, tant qu'on est dans cette phase d'exploration, il y a besoin de beaucoup. Mais à l'inverse, je pense effectivement qu'il y a des abus. Typiquement, quand tu connectes absolument tous les outils et que ton compte Claude Code a besoin de tout analyser avant de faire une réponse, ça donne des... Déjà, c'est lent et parce que ça tourne. Et moi, je connais des développeurs où dans leur entreprise, ils sont plusieurs dizaines de développeurs et chaque développeur paye minimum... Enfin, l'entreprise paye minimum 700 euros par mois de licence Claude Code.
Oui, donc c'est quand même énorme. Et en même temps, tu me disais, en préparant cette émission, que c'était compliqué encore aujourd'hui d'utiliser des modèles un peu frugaux, locaux, certes spécialisés pour le code, mais ils ne sont pas encore très bons par rapport à des cloud code ou par rapport à des grosses mastodontes du marché, quoi.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même des choses à mettre en place. Notamment, moi, je l'ai sur ma to-do, je ne l'ai pas encore fait, mais mettre en place des algos. Par exemple, quand je te disais, je lui donne le nom d'un fichier, utiliser des méthodes plus légères pour aller parser ta code base et t'assurer que... Enfin, trouver le chemin du fichier. Et donc, de toute façon, à mon avis, si... Les pricing des solutions IA reflètent l'utilisation qu'on a. À un moment ou à un autre, on va être obligé en fait de rationaliser tout le monde.
Ça commence un peu à augmenter là.
Ça commence à augmenter et on va être probablement dépendant à un moment ou à un autre et devoir se poser quelques questions.
Bon, écoute, merci beaucoup. Hein. C'est l'heure de conclure. Merci Alexia pour ce partage de tes manières de faire du développement avec l'IA. Merci beaucoup.
Merci à toi Jean-Philippe.
Et merci à vous chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode et manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. On se dit à bientôt.